vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. L'émission de ce mois de décembre aura pour thème la consommation d'alcool pendant les fêtes. Et pour en parler, nous recevons comme invité devant nos micros Vincent Naturel, sous-préfet et directeur de cabinet à la préfecture de Vaucluse. Bonjour.
Bonjour.
Et nous recevons aussi le capitaine Vincent Eudron, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière du Vaucluse, le DSR. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous dans cette émission pour les fêtes de fin d'année approchent, hein, comme chaque année depuis donc la nuit des temps. Et malheureusement, alcool et fêtes vont de pair. Et pour éviter donc les accidents au volant, la préfecture de Vaucluse, grâce aux forces de l'ordre, sera présente sur les routes avec l'escadron départemental de sécurité routière du Vaucluse pour notamment des actions de sensibilisation ou de répression. Et justement, première question que je vais poser à Monsieur Eudron, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les nombreux rôles de l'escadron départemental de sécurité routière du Vaucluse ?
Alors, l'escadron départemental de sécurité routière de Vaucluse est une unité à dominante sécurité routière, hein, comme le nom l'explique, qui est présente sur tous les axes du département. Elle est constituée de 4 unités, 3 brigades motorisées constituées de motocyclistes et un peloton d'autoroute qui a en charge l'autoroute A9 et l'autoroute A7 sur son secteur de compétence. Donc les missions de l'escadron départemental, ça va être en priorité une présence visible sur les axes et rechercher tout ce qui est comportement déviant des utilisateurs de ces axes pour pouvoir sensibiliser ou sanctionner les comportements inadaptés. Ils rentrent en renfort et en complément des autres unités de gendarmerie pour tout ce qui est domaine police judiciaire ou police administrative ou tous les autres domaines. Parce que le gendarme est compétent dans plein de domaines. Voilà. On n'a pas exclusivement la sécurité routière, mais en majorité, c'est cet axe-là.
Monsieur Naturel, donc pour la partie préfecture, quel va être le rôle un petit peu de la préfecture de Vaucluse pendant la période des fêtes de fin d'année ?
Alors, c'est un rôle d'information et de sensibilisation du grand public au risque sur cette période un petit peu particulière. Vous l'avez dit en introduction, ces fêtes de fin d'année, elles sont des moments de rassemblement, de communion, des moments qu'on passe en famille, entre amis et des bons moments, des moments joyeux. Mais c'est aussi, pour la sécurité routière, une période un peu particulière, oserais-je dire une période de tous les dangers, parce qu'on a des facteurs de risque qui sont démultipliés. On a effectivement des moments de convivialité où potentiellement on va consommer de l'alcool, éventuellement d'autres substances illicites qui sont aussi un facteur de risque. On a plus de circulation sur les routes. On a aussi des jours qui sont plus courts, donc des conditions de circulation en nocturne. Et donc traditionnellement, malheureusement, le mois de décembre, la période des fêtes, est une période où on a une accidentalité qui est relativement forte. À titre d'illustration, pour 2023, 12% de l'ensemble des accidents corporels ont eu lieu sur le seul mois de décembre. Donc il y a clairement une surreprésentation de l'accidentalité au cours de ce mois. Et durant les vacances de Noël l'année dernière, donc fin 2023, début 2024, sur les 14 jours de vacances, nous avons eu 26 accidents corporels, donc vous voyez quasiment 2 par jour, ce qui est quand même assez élevé, dont plus de la moitié de ces accidents qui ont lieu en conditions météo normales, soit tombées de la nuit, soit en journée, mais sans facteur climatique dégradant. Et donc ça montre qu'il y a vraiment une vigilance à avoir, particulièrement sur cette période.
Et donc malheureusement, effectivement, des chiffres qui seraient d'ailleurs en augmentation sur 2024, sur le nombre de décès aussi.
Alors effectivement, on est sur une tendance qui n'est pas très bonne, hein, il faut se le dire, avec en termes de morts sur la route, une augmentation sensible, puisque à l'heure où on se parle, nous avons à déplorer 39 personnes décédées sur les routes vauclusiennes en 2024, alors que nous en étions à 28 sur l'intégralité de l'année 2023. Donc il y a vraiment un enjeu très fort à être prudent, puisqu'on a des chiffres d'accidentalité qui sont cette année pas bons, il faut se le dire.
Et quelle va être la réponse justement de la préfecture ? Alors là, on va parler de Vaucluse surtout essentiellement. Quelle va être votre réponse pour diminuer encore plus de sensibilisation, on l'imagine ? Peut-être alors, plus de répression ?
Alors voilà, en fait, il y a deux leviers. Il y a clairement la prévention et la sensibilisation au travers d'actions comme nous faisons actuellement de sensibilisation auprès du grand grand public sur les risques encourus. Et puis, il y a un volet répressif hein, qui est porté en premier lieu par les forces de l'ordre pour sanctionner les comportements irresponsables sur la route que malheureusement nous constatons.
Alors, je vais revenir un petit peu sur la partie EDSR, sur l'escadron départemental de sécurité routière. Quelles sont les actions finalement et les opérations qui sont mises en place tout au long de l'année pour sensibiliser les conducteurs à la non-consommation d'alcool au volant?
Tous les mois, hein, donc il y a des opérations qui sont faites en action de visibilité avec des contrôles routiers hein, à différents endroits du département, aussi bien sur route départementale que sur l'autoroute. Des actions à fort impact de visibilité puisqu'on déploie des moyens conséquents qui regroupent plusieurs unités sur un même lieu avec du contrôle systématique de véhicules tous les comportements déviants sont recherchés, hein, aussi bien la vitesse que l'alcool, les conduites addictives, hein, l'usage de stupéfiants, tous les domaines qui causent des accidents, qu'on appelle les infractions graves génératrices d'accidents pour nous. On relève ces infractions sans sourciller. Hein. Après, on a des campagnes de sensibilisation qui sont en accord avec le pôle prévention routière de la préfecture, qui sont des actions de sensibilisation dans les cadres des départs en vacances, avec des présences de stands de sensibilisation avec des associations qui sont là pour rappeler les dangers de l'alcool, pour rappeler les dangers de la vitesse.
Là, c'est plutôt sur les périodes de l'été, mais aussi là pour les vacances de Noël.
Voilà, c'est tout ce qui est période de vacances. Hein. Il y a des actions de sensibilisation qui sont faites et qui sont mises en place en commun avec les forces de l'ordre et le pôle sécurité de la préfecture. On a également tout ce qui est ponctuellement et avec accord du procureur de la République, des campagnes qu'on appelle alternatives aux poursuites, c'est-à-dire qu'on va rechercher des infractions mineures, on prend les auteurs de ces infractions, les accompagne également après accord du parquet, en sensibilisation au danger et à la sécurité routière, également en accord avec, au lieu de se faire sanctionner, ils ont un rappel sur les dangers des comportements qui sont déviants, mais on parle d'infractions mineures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en sensibilisation. Après, le reste, c'est de la répression et on sanctionne tous les comportements déviants.
Monsieur Naturel, je crois que vous souhaitiez rajouter quelque chose à ce sujet.
Peut-être pour préciser au niveau du calendrier que la prochaine opération sensibilisation de départ en vacances se déroule le samedi 21 décembre sur l'aire de Mornas. Et donc, effectivement, c'est des actions qu'on déploie durant les périodes, notamment en juillet-août, et aussi à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc, il faut avoir à l'esprit qu'on a une action qui se veut vraiment transversale. On essaie de toucher un maximum de public, aussi bien sur autoroute, plutôt un public qui va transiter par le Vaucluse sur l'autoroute, mais qu'on doit aussi sensibiliser, quand bien même ce ne sont pas des Vaucluviens, mais aussi vraiment des actions locales, pour sensibiliser la population localement sur les risques encourus.
Est-ce qu'on peut retrouver aussi toutes ces informations, ces dates, ces opérations, peut-être sur le site de la préfecture aussi, qui peuvent nous donner ces informations ?
Alors, on communique généralement par nos réseaux sociaux. On n'a pas forcément un calendrier, un planning affiché 3 ou 6 mois à l'avance. Mais on communique sur nos réseaux quelques jours avant chacune des opérations.
Vous savez que dans l'émission Sur ma route, on fait aussi des recommandations, on sensibilise le public, les auditeurs, les auditrices. Et justement, je souhaiterais qu'on donne des conseils pour prendre la route en sécurité pendant les fêtes de fin d'année, on va dire plutôt pendant cette période, on va dire, hivernale. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux auditeurs et auditrices qui prennent la route, que ce soit en voiture ou en tout cas tout engin à moteur avec des roues potentiellement?
Oui, donc là, en fait, si on peut donner des conseils, ce qu'il faut en tout premier lieu, c'est être vigilant et attentif. On voit qu'en fait, dans la majorité des accidents, on est généralement dans une cause comportementale. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient du comportement du conducteur. Donc, pour être en sécurité, si on est déjà attentif aux autres, on a déjà gagné beaucoup de choses dans l'évolution de son véhicule. Si on reste sur les sujets de l'alcool, du stupéfiant ou autre chose, c'est sûr que si on part dans une conduite d'un véhicule sans avoir consommé ni d'alcool ni de stupéfiants, on sera d'autant plus vigilant à la conduite. Après, on a le respect des vitesses ou le respect des signalisations, hein, à proprement dit, et la courtoisie au niveau des intersections qui sont cause d'accidents si on ne les respecte pas. Et donc, si on est vigilant à respecter les réglementations du code de la route, normalement, on peut avoir un voyage qui sera serein, hors conditions climatiques ou autres, là où on doit accentuer sa vigilance, surtout là en fin d'année où on a des problèmes d'éclairage qui doivent être efficaces. Et puis, il faut être attentif justement parce que la visibilité est réduite par le brouillard ou par la pluie ou le danger de la route glissante par rapport au froid.
Et d'ailleurs, il y a aussi des actions dans ce cadre-là qui sont organisées par le pôle sécurité routière, justement pour sensibiliser le public au changement d'heure. Petite question aussi, est-ce qu'il y a des horaires à éviter ? On sait que très bien qu'en fête de fin d'année, malheureusement, on va prendre la route très tard. On sait que ce n'est pas forcément les horaires où on est sur la route. Et là, comment améliorer, j'ai envie de dire, sa vigilance ? Comment peut-être repousser le créneau d'horaire, dormir sur place et attendre finalement peut-être le lendemain matin ?
Alors, c'est sûr qu'il est plus conseillé de se reposer avant de reprendre la route, surtout si on a fait la fête toute la soirée. C'est bien évidemment, vaut mieux être frais et apte à conduire plutôt que d'être somnolent ou subir les effets de l'alcool ou de la fatigue. Il n'y a pas de réel horaire propice au départ. Hein. Il faut être apte et se sentir apte à conduire et en mesure d'être réactif au volant de son véhicule. Hein, parce que sinon, là, c'est là où on a les causes d'accidents les plus dramatiques. La somnolence n'aide pas aussi à la perte de contrôle des véhicules. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, comme le disent les campagnes de sensibilisation, hein, quand on tient à quelqu'un, on le retient. Ou si on veut reprendre le volant, il faut avoir un conducteur qui n'a rien consommé, comme la sensibilisation pour SAM. Ça, c'est des campagnes de sensibilisation qui sont bien connues des différents usagers de la route.
Et justement, quelles sont les premières causes d'accident sur la période des fêtes, Monsieur Naturel ?
Alors, les premières causes d'accident, et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de rebondir sur l'importance des comportements. Quand on reprend la période de Noël l'année dernière, 2023-2024, on retrouve la vitesse excessive ou inadaptée dans 35% des accidents, l'alcool dans 31%, l'inattention et le téléphone dans 27%, et la consommation de stupéfiants et la somnolence dans 15% des cas. Donc on voit que la première des raisons à l'accident, c'est en fait un comportement inadapté selon les différentes causes qu'on vient d'évoquer. Et particulièrement dans cette période de fête, où on est amené effectivement à sortir, à voir des amis, le comportement doit être adapté. Et en plus, effectivement, désigner quelqu'un qui ne conduit pas au cours d'une soirée ou empêcher quelqu'un de reprendre le volant. On peut aussi déployer d'autres stratégies. C'est lorsque c'est possible, prendre les transports en commun ou appeler un taxi. Penser à se reposer quand on va faire des longs trajets. Et si on a consommé à minima, si on a consommé l'alcool à minima, utiliser un éthylotest pour contrôler qu'on est bien sur des seuils autorisés pour conduire.
Justement, vous venez sur les questions suivantes. Les instruments, quels sont les instruments à la possession des forces de l'ordre pour contrôler le taux d'alcool d'un conducteur ? On vient d'y répondre plus ou moins, mais qu'est-ce qui est à la disposition des forces de l'ordre ?
Donc, dans un premier temps, sur les contrôles routiers, on a ce qu'on appelle un éthylotest. C'est un appareil qui, dans l'air expiré, va nous permettre d'analyser s'il y a présence ou pas d'alcool dans l'air expiré du conducteur. Une fois cette étape faite, si le conducteur est positif, il est soumis à un éthylomètre. L'éthylomètre, lui, va nous donner une valeur de quantité d'alcool dans l'air expiré. On est sur des taux de milligrammes par litre d'air expiré. Donc, pour rappel, en matière de conduite, il est interdit de conduire un véhicule à partir de 0,25 mg par litre d'air expiré. En ratio, ça nous fait un taux à 0,5 g par litre de sang. Passé ce taux-là, on est sous l'empire d'un état alcoolique et il nous est interdit de conduire. Donc de 0,25 jusqu'à 0,39 mg par litre d'air expiré, on est en taux contraventionnel. Et à partir de 0,40 mg par litre d'air expiré, soit 0,80 g par litre de sang, on va être en taux délictuel. Et là, on encourt, en plus d'une sanction pécuniaire, une perte du permis de conduire pour une durée déterminée avec suspension qui peut aller jusqu'à l'annulation définitive par le tribunal judiciaire du permis de conduire en matière de récidive ou en matière de taux important.
Il est important donc d'avoir le côté aussi répressif en plus de la sensibilisation, Monsieur Naturel ?
Oui, bien sûr. Les deux leviers ont leur importance. Et bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur qu'on sanctionne des comportements qui sont inadaptés. Donc tout ce qu'on peut faire en sensibilisation et en prévention, on le fait. mais arrive un moment où chacun doit prendre ses responsabilités. Et dès lors qu'on a en face de nous des personnes qui ont un comportement irresponsable au volant, eh bien nécessairement, elles risquent la sanction en cas de contrôle.
On va rappeler peut-être l'unité voilà, d'alcool qu'on peut consommer avant de prendre le volant. Quel est le seuil à ne pas dépasser? Vous l'avez un petit peu dit, vraiment le seuil.
Oui, donc c'est ça. Hein, le seuil, donc c'est le taux contraventionnel était à 0,25 mg par litre d'air expiré, soit 0,5 g par litre de sang.
Voilà. Et il y en a qui se disent c'est un verre, c'est deux verres, comment on peut le savoir? Le mieux c'est quand on prend le volant de pas boire, on est d'accord. Mais
ça c'est le mieux. Après on peut pas dire un verre, deux verres ou trois verres. C'est tout dépend de la sorte d'alcool qu'on va absorber. Et puis il y a une histoire de morphologie de la personne également. Hein. On est si on est corpulent ou moins corpulent, si on a mangé pas mangé, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir déterminer le taux d'alcool. Et savoir si on va assimiler plus facilement ou moins facilement l'alcool par l'organisme. L'alcool va monter en plus dans les premières heures, hein, donc la progression du taux d'alcool dans les deux premières heures va progresser. Après, il y aura une phase de redescente. Mais tout pendant que le corps n'a pas réussi à assimiler cet alcool, on n'est certainement pas apte ni en mesure d'avoir tous ses réflexes pour pouvoir conduire son véhicule. Et donc, c'est pour ça qu'on a le relevé des infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Comment savoir finalement qu'on n'est plus sous l'emprise de l'état alcoolique quand on a bu, finalement c'est l'éthylotest qui est le plus sûr.
Alors l'éthylotest électronique, nous c'est un moyen que nous on utilise tous les jours et c'est ce qui est le plus fiable comme système pour vérifier si on est sous emprise d'alcool ou pas. Parce que le reste après il est difficilement déterminable. Les éthylotests chimiques qu'on avait avant dans les véhicules ou qu'on utilisait donnaient juste une indication de présence ou non d'alcool. Tandis que l'éthylotest va dire si on est au-delà du seuil autorisé ou pas. Donc c'est pareil par la présence d'alcool.
Donc l'éthylotest, on rappelle, n'est plus obligatoire dans les voitures depuis quelques années maintenant.
Oui, c'est plus obligatoire. Maintenant, après, c'est conseillé si jamais on a besoin de se tester. Il est bien d'investir dans un éthylotest électronique qu'on peut garder dans sa boîte à gants pour pouvoir se tester.
Alors bien évidemment, il y a la consommation d'alcool, mais aujourd'hui et depuis quelques années, en augmentation, c'est notamment la consommation de stupéfiants. Et là, ça cause aussi de nombreux accidents. Et je crois, monsieur le sous-préfet, que vous avez des chiffres à ce sujet.
Absolument. On constate une augmentation très sensible de la consommation de stupéfiants, y compris par des usagers de la route, hein, ce qui pose un véritable problème parce que les stupéfiants ont un impact direct sur la capacité à conduire et à contrôler son véhicule. Le cannabis, notamment, entraîne une somnolence, un rallongement des temps de réaction, diminue aussi les facultés visuelles et auditives. J'ai l'impression de dire au contraire, l'ecstasy masque la sensation de fatigue alors qu'elle est bien là, mais entraîne une forme d'euphorie qui n'est pas compatible avec les bons réflexes sur la route. La cocaïne également va susciter une conduite agressive et des erreurs d'attention. Donc voilà, on est sur des impacts qui sont très 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 forts et qui ont une incidence vraiment réelle sur les capacités à conduire, qui malheureusement se retrouve dans les chiffres, puisqu'aujourd'hui, un accident mortel sur 5 implique un conducteur positif aux stupéfiants. Donc on voit bien qu'on est face à un phénomène qui malheureusement est là, qui touche des classes d'âge finalement assez variées, puisque quand on regarde les accidents mortels au niveau national et les conducteurs qui sont contrôlés au positif, on se rend compte qu'on en a 27% qui sont âgés de 18 à 24 ans, 30% qui sont âgés de 25 à 34 ans et 22% âgés de 35 à 44 ans. Donc on a une consommation qui est par ailleurs assez banalisée dans la population. Et effectivement, vous l'évoquiez, quand on mélange drogue et alcool, les effets sont délétères. Et d'un point de vue purement statistique, ce qu'on constate, c'est que le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 29 dès lors qu'on est sur des personnes qui ont consommé stupéfiants et alcool.
Est-ce qu'on a des chiffres énormes, hein, multipliés par 29. Donc, d'où le danger pour les autres, effectivement, de prendre la route sous l'emprise d'alcool. Il y a des campagnes médiatiques qui sont peut-être en cours ou prévues. Alors, aujourd'hui, ça en fait partie sur la radio, mais du coup, pour sensibiliser un petit peu plus le public, justement, à cette consommation d'alcool pendant les fêtes.
Absolument. Bon, là, on est sur des campagnes nationales assez classiques, finalement, avec des, on espère en tout cas, des figures qui sont bien connues du grand public, avec le SAM, notamment. Celui qu'on va désigner en début de soirée pour ne pas boire et conduire. Le message maintenant bien connu, quand on aime quelqu'un, on le retient, on l'empêche de conduire, quand on tient à quelqu'un. Ces messages-là, évidemment, on va les repasser au cours des prochaines semaines, à la fois sur le plan local via la préfecture, mais aussi via des campagnes nationales.
Alors, on pense souvent ne pas prendre le véhicule, par exemple, si on a bu, mais si on est en trottinette, parlons du cas des trottinettes, est-ce qu'en trottinette, on est aussi concerné par les règles, les mêmes règles en tout cas qu'en voiture, si on prend la voie publique notamment ?
Alors, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, elle considère tout conducteur de tout véhicule tel que défini au code de la route. Hein. Donc, une trottinette rentre dans le cadre des véhicules qui sont définis au code de la route, au même titre qu'un cycliste ou qu'une mobylette ou un scooter ou une voiture ou un poids lourd. Voilà, tous ces véhicules sont soumis à la même réglementation du code de la route. On ne peut pas conduire après avoir fait usage d'alcool à un taux qui est au-delà du taux autorisé.
Parlons peut-être des effets de l'alcool sur les capacités du conducteur. Rentrons un peu plus en détail. Tout d'abord, par exemple, suivant la consommation, mais quelles sont les capacités qui sont diminuées ? Est-ce que notamment ça peut être la concentration, la lucidité, le temps de réaction va être allongé ?
Oui, bah, tout ce que vous avez énoncé, c'est ça, hein, en fait. Hein. Donc, plus on boit et moins on est attentif. Plus on boit et plus on est somnolent. Et plus on consomme de l'alcool et moins les réflexes sont là. La vue se trouble, l'effet tunnel est présent également, puisqu'en fait, la visibilité et le
champ de vision se rétrécit.
Voilà, le champ de vision qui est rétréci. Donc, en gros, tout ce qui et de l'analyse de l'environnement est amoindri et donc et par les réflexes diminués, c'est sûr qu'on peut moins rapidement réagir à n'importe quelle situation.
Autre petite question, assez rapidement, mais par combien est-ce que le risque d'accident est multiplié des 0,5 g de litre d'alcool par I200 et puis aussi faire la différence entre litre de sang et air expiré. Il y a une différence entre les deux peut-être aussi.
Alors déjà, il se dit que bon, en matière d'alcool, si on a consommé de l'alcool, le risque d'accident peut être doublé. Maintenant, après, il faudrait vraiment se pencher sur les statistiques réelles pour voir l'évolution ou si c'est une science exacte. Par contre, après, le domaine de l'alcoolisation fait que le conducteur perd ses moyens et donc il est plus réactif. Pour en revenir au ratio qui est énoncé, on a une analyse qui a été faite entre l'air expiré et la présence d'alcool dans le sang. On va dire que une mesure par éthylotest, si on veut la comparer au taux d'alcool dans le sang, on multiplie par deux également. Mais ça, c'est des données qui ont été faites et analysées scientifiquement sur les conducteurs et sur les résultats obtenus.
Dans certains pays d'Europe, l'application de la tolérance zéro est mise en place. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que finalement, quand on boit, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas y venir ? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à appliquer ? Peut-être, monsieur le sous-préfet ou monsieur Audron, vous qui constatez aussi, monsieur Audron, régulièrement sur la route, des accidents mortels, avec, ça peut être quelque chose à réfléchir, ou en tout cas qui suit son chemin, qui pour l'instant n'a pas encore émergé ?
Ben, ça évolue, hein, le législateur y a pensé, puisque en fait, tout ce qui est jeune conducteur, déjà, a un taux qui est à 0,10 au lieu d'être à 0,25 pour pouvoir conduire. Hein. Donc on est quasiment à zéro alcool. Hein, quand on est à 0,10 mg par litre d'air expiré, c'est quasiment rien. Donc oui, pourquoi pas, c'est surtout du comportemental. Et si on analyse et qu'on respecte la mesure SAM, là, en fait, on a tout gagné, puisque justement, le SAM, on lui demande de rien avoir consommé. Et donc, ça serait l'idéal si à chaque fois qu'il y a un véhicule qui doit partir après une fête, il y ait automatiquement un SAM qui reprenne le volant.
La responsabilité du comportement, elle est primordiale. Il paraît préférable d'avoir quelqu'un qui se dévoue et ne boit pas, plutôt que de se lancer dans une interdiction générale et absolue. Maintenant, on est de toute façon sur des débats du niveau national qui nous dépasse assez largement. Ce qu'on peut constater de façon très empirique, c'est que dès lors que à l'alcool est associé un risque fort d'accident, et que donc la responsabilité individuelle, elle est vraiment primordiale.
Avant de presque arriver au terme de cette émission, est-ce qu'on peut faire baisser son taux d'alcool rapidement? Il y en a qui nous inventent des solutions finalement, mais non, il faut se dire que c'est le temps qui fait le reste.
Voilà, c'est l'assimilation de l'organisme. Hein. On voit tout comportement, hein, nous, en cas de contrôle. Hein. Dès qu'on a quelqu'un, un conducteur qui est positif, on en a qui essaye de nous faire des pompes, de courir. Même si on essaye de boire de l'eau, ça n'a pas d'incidence à l'instant T ni sur les appareils, ni sur la baisse du taux d'alcool. La seule diminution du taux d'alcool, c'est l'assimilation par l'organisme de cet alcool qui doit être détruite et qui doit baisser par elle-même. Hein. Donc, il est peu probable de réussir à faire quoi que ce soit en faisant du sport ou autre chose au bord de la route en cas de contrôle sous gendarmerie, à part se ridiculiser.
Alors, est-ce qu'il est bien finalement de prévoir son retour de soirée, de dormir sur place? On disait d'avoir un SAM, une personne qui ne boit pas. Je pense que c'est la meilleure solution.
Clairement.
On arrive donc au terme de l'émission Sur ma route, réalisée donc en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. L'émission de ce mois de décembre avait pour thème la consommation d'alcool pendant les fêtes. Monsieur le sous-préfet, pour conclure cette émission, vous souhaitez rajouter quelques mots pour les fêtes de fin d'année notamment?
Oui, peut-être pour conclure, rappeler que cette période de fin d'année, c'est une période de fête, c'est une période de convivialité, c'est une période de joie, c'est une période où on se retrouve. Et c'est vraiment dramatique d'avoir à déplorer des accidents et des drames alors qu'on est dans ces moments de joie. Donc on appelle vraiment à la responsabilité de nos concitoyens pour que ces moments restent des moments de bonheur et ne deviennent pas des moments de malheur.
Merci à nos invités d'avoir fait le déplacement et d'avoir participé à cette émission. Vincent Naturel, donc sous-préfet, directeur de cabinet à la préfecture de Vaucluse. Capitaine Vincent Eudron, commandant second de l'escadron départemental de sécurité routière du Vaucluse, EDSR. Merci à tous les deux. Au revoir.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.